Vous êtes sur RTL. 8h.
RTL Soir, Vincent Parisot. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous. Oui, RTL Soir, c'est parti jusqu'à 18h30, c'est l'heure à laquelle vous ferez le match avec Christian Olivier. À la une ce soir, tension, harcèlement, gaz lacrymogène, 7 gendarmes et 2 manifestants blessés, 6 interpellations. Le jeu du chat et de la souris en plein champ cet après-midi à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Des milliers de personnes, dont des radicaux, ont bravé l'interdiction préfectorale de manifester sur le terrain d'un chantier de bassines. C'est l'une de ces réserves d'eau pour l'irrigation agricole dénoncée par les écologistes. On sera sur place. À la une également, Londres, accusé par Moscou d'être derrière l'attaque de drones de ce matin dans la baie de Sébastopol en Crimée, mais aussi d'être derrière le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique. La Grande-Bretagne dénonce de fausses informations destinées à détourner l'attention. RTL en Ukraine, dans la région de Kherson, on va retrouver nos envoyés spéciaux avant leur retour et après avoir traversé des villages repris par les Ukrainiens. C'est maintenant l'hiver qui est craint par les populations. Au menu d'RTL Soir, par ailleurs, un témoignage RTL 6 jours après la mort de Justine dans le Lot et après les aveux et la mise en examen du meurtrier présumé. Nathalie, une jeune femme très proche de la famille et de Justine, elle s'exprime sur RTL ce soir, vous l'entendrez dans un instant. Le football, la 13e journée de Ligue 1 depuis 17h au Parc des Princes. Le PSG affronte 3. Où en est-on, Nicolas Georgerot?
C'est la pause et le Paris Saint-Germain accroché au Parc. Un but partout. Baldé à la 3e minute pour 3. Carlos Soler pour l'égalisation du Paris Saint-Germain. Début de la seconde période dans un instant.
Eh bien écoutez, on se retrouvera dans 20 minutes, Nicolas. Ce soir à 21h, ce sera Strasbourg-Marseille que vous suivrez dans RTL Foot. Le rugby, la Coupe du Monde féminine. Les Bleus affronteront les Blacks en demi-finale. C'est pas gagné, mais c'est possible, nous dira un spécialiste. Le quintet de Compiègne, 12, 13, As, 2 et 8. Et puis le temps, bonsoir Valérie Quintin, encore de la douceur demain.
Bonsoir Vincent, oui, on va garder la douceur, mais on va y perdre un petit peu en soleil demain. Alors dès le matin d'ailleurs, le ciel sera passablement nuageux sur le nord-ouest, entre la Normandie et la Vendée, avec quelques averses locales, une grisaille humide qui gagnera les Hauts-de-France, l'ouest du bassin parisien, le Poitou-Charentes ou encore le Limousin et l'Aquitaine. Dans le courant de l'après-midi, à l'avant, un soleil de plus en plus voilé entre les Ardennes et les Pyrénées. Les plus belles éclaircies devraient se maintenir tout de même. De l'Alsace à la Corse, côté température, fourchette de 7 à 17 degrés au réveil entre les Ardennes et la Bretagne. Dans l'après-midi, comptez 17 à 27 degrés du nord au sud, avec 21 degrés à Paris, à Lille et à Bordeaux, 22 degrés à Biarritz, 24 degrés à Toulon et Belfort, 25 pour Ajaccio et Toulouse, et 26 degrés à Clermont-Ferrand et à Montauban.
RTL Soir avec Vincent Parisot.
Valérie vient de nous le dire, le temps va commencer à changer par l'ouest. La première semaine des vacances de la Toussaint aura donc été quasi estivale, mais dans le sud-est, on va encore pouvoir en profiter demain. Comme aujourd'hui, à Marseille, 25 degrés à l'ombre, mer agréable, dernière baignade en vue pour la Toussaint.
Ici, à la plage des Catalans, en centre-ville de Marseille, la mer est à 20 degrés et le soleil tape presque comme en été. Alors, ce n'est pas l'affluence estivale non plus, mais ça y ressemble. Marie-Béatrice sort tout juste de l'eau.
C'est merveilleux. Ouais, je veux dire, on est le 29 octobre, il y a le soleil et on rentre dans l'eau presque facilement. C'est exceptionnel, mais en tout cas, c'est vivifiant et ça fait du bien.
Valérie, elle, est descendue de Paris pour les vacances avec toute sa famille. Et pendant que ses enfants sculptent une tortue dans le sable, elle profite du soleil après la baignade, même si elle n'avait pas vraiment anticipé cette chaleur.
On avait planifié de venir ici, mais on avait apporté seulement un short et un maillot. Du coup, ça fait une semaine qu'on les porte. On ne s'attendait pas à ce temps-là, c'est sûr. Ben, c'est agréable.
Tout le monde ici savoure ces températures, mais elles ont tout de même un drôle de goût. Voilà ce qu'en dit Laetitia, les pieds dans l'eau.
Ça fait un peu peur quand même, ce temps aussi beau en octobre, mais c'est génial de pouvoir se baigner quand même. Ben, parce qu'on se dit que le réchauffement climatique, quand même, on voit les impacts, on voit les vrais effets. On se baigne, mais on se dit qu'on ne devrait pas se baigner maintenant, c'est un peu bizarre quand même.
Et cette douceur devrait se poursuivre au moins jusqu'à lundi.
Voilà, reportage plage des Catalans à Marseille, signé Manon Meyer, Il Figure. Et puis à Marseille, comme ailleurs, hein, comme tous les derniers dimanches d'octobre, eh bien la France passera la nuit prochaine à l'heure d'hiver, même si l'été a joué les prolongations, on l'a compris. Ça veut dire que la nuit prochaine, à 3h du matin, il sera 2h. Et dans ce contexte de vacances, mais aussi de pénurie persistante de carburant dans certaines régions, eh bien les poids lourds transportant des hydrocarbures vont pouvoir circuler à la Toussaint, et cela pour alimenter les stations. Ces véhicules vont pouvoir circuler pendant 3 journées, demain, lundi et mardi, ce qui permettra les approvisionnements entre les dépôts ainsi que depuis les dépôts et vers les stations. C'est donc un témoignage RTL particulièrement poignant. 6 jours après la mort de Justine Vérac, 20 ans, dont le corps a été retrouvé près de son domicile dans le Lot. Vous savez qu'un jeune agriculteur de 21 ans, prénommé Lucas, a été mis en examen pour viol, séquestration, meurtre. Il encourt la perpétuité. Mais il y a encore de nombreuses zones d'ombre dans cette affaire et l'autopsie permettra peut-être d'en savoir plus sur le déroulé des faits. Maxime Lévy a recueilli ce matin dans le Lot, à Thoriac, le village de Justine, le témoignage d'une jeune femme qui est très proche de la famille, Nathalie. Elle avait d'ailleurs suivi même une formation d'aide-soignante avec Justine. Et elle aussi, elle veut comprendre.
J'arrive toujours pas à y croire, en fait, que Justine soit plus là. C'était une fille adorable. Justine était très intelligente et elle nous faisait rigoler. Elle était toujours joviale. C'était une fille en or, une fille en or. Pas un pet de méchanceté. Elle faisait confiance à tout le monde, peut-être même trop facilement. Et j'arrive pas à imaginer, et je suis un peu dans le déni, j'arrive pas à y croire en fait qu'elle soit plus là. Elle méritait pas ça, c'est horrible, c'est horrible. Justine passe pour une fille de 20 ans qui était fêtarde, qui sortait tous les week-ends et qui picolait et tout, alors que Justine n'était pas comme ça. C'était pas son truc en fait. Certes, elle avait 20 ans, mais elle était maman d'un petit garçon de 2 ans et demi. Et quand elle avait son fils, elle était tout le temps avec lui. Je vous dis, elle se serait pliée en quatre pour son fils. C'était tout pour elle. Justine et sa mère, ils étaient très fusionnels et elle envoyait tout le temps des messages à sa mère. Tous ses faits et gestes, elle les disait à sa mère pour pas que sa mère s'inquiète. Donc que là, on n'ait pas une nouvelle, effectivement, c'était pas normal, c'était pas Justine. Forcément, il lui était arrivé quelque chose. Je suis pas policière, je suis pas, voilà, il y aura une enquête. Mais il y a des zones d'ombre qui restent encore à élucider, ça c'est sûr. Parce que ça a été prémédité en fait. Parce que Justine serait jamais partie avec quelqu'un qu'elle connaissait à peine ou qu'elle connaissait pas. J'ai jamais entendu parler de ce Lucas, en fait. Jamais. Autant j'entendais parler d'autres personnes, de ses amis. Mais jamais j'ai entendu ce nom Lucas, en fait. Jamais elle m'en a parlé. Elle-même, elle n'avait pas un pet de méchanceté. Donc pour elle, tout le monde était gentil. Elle était un peu naïve, certes, mais elle serait pas partie avec une personne qu'elle aurait connue à peine ou pas, en fait. C'est pas Justine. Il y a trop de zones d'ombre. Trop de zones d'ombre. Je pense que la famille a besoin de savoir, nous on a besoin de savoir réellement ce qui s'est passé pour que la famille puisse faire le deuil. Même si malheureusement, je crois qu'on ne peut jamais faire le deuil de son enfant et accepter qu'elle soit plus là en fait.
Témoignage RTL, Nathalie donc au micro de Maxime Lévy à Thoriac dans le Lot et c'est à retrouver sur rtl.fr. Allez, direction maintenant la plaine, les champs de Sainte-Soline, c'est dans les Deux-Sèvres. Là où, malgré l'interdiction de la préfecture, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées cet après-midi pour dire leur opposition aux bassines près du chantier de l'une d'entre elles. Il s'agit de ces réserves d'eau destinées à l'irrigation agricole. 1700 gendarmes environ avaient été mobilisés. Parmi les manifestants qui ont bravé l'interdiction préfectorale, une bonne partie de l'état-major d'Europe Écologie des Verts, par exemple Yannick Jadot ou Sandrine Rousseau, mais également des militants beaucoup plus radicaux, visiblement prêts à en découdre. Résultat, des tensions, des affrontements. Bilan ce soir, à l'heure qu'il est, 7 gendarmes et 2 manifestants blessés, selon la préfète. Retour sur cet après-midi, sur place pour RTL, Clara Etchari.
C'est un véritable jeu du chat et de la souris qui s'est déroulé tout cet après-midi. D'un côté, les manifestants à travers champs, de l'autre, les gendarmes devant la bassine. Pour Thierry, dans l'un des cortèges, cette marche était indispensable.
Ils font un rapt de l'eau et on a le devoir de démolir toutes les infrastructures qui le permettraient et toutes les barricades qui mettraient pour nous empêcher de faire respecter pour nous et pour tous le droit à l'eau.
À l'arrivée, les militants ont été reçus par un nuage de lacrymogènes et des grenades de désencerclement. Boris est encore chamboulé.
La police qui manque de moyens, soi-disant, ben on ne l'a pas trop vu, le manque de moyens aujourd'hui. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress, beaucoup d'adrénaline. Surtout que c'était vraiment, vraiment très impressionnant. Enfin, ils sont quand même suréquipés, surarmés. Ils ont vraiment énormément une très large palette de matériel et en très grande quantité. Et ils étaient vraiment là, concrètement, pour nous faire peur, pour nous intimider.
Les militants ont précisé qu'ils allaient rester sur le campement jusqu'à ce que le projet soit abandonné.
Voilà, reportage signé Clara Etchari et je vous rappelle le bilan. 7 gendarmes ont été blessés ainsi que 2 manifestants. Des manifestations de catholiques en colère devant les évêchés ou les cathédrales. Le collectif Agir pour notre Église a décidé de mobiliser ce week-end. L'objectif, c'est de faire pression sur les évêques avant leur assemblée plénière début novembre pour agir avec plus de transparence dans les affaires d'abus sexuels au sein de l'Église. Opération baptisée « Sortons les poubelles » en référence un tweet de l'ancien archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit, qui avait reproché à certains d'aimer fouiller les poubelles dans ce genre d'affaires. En tout cas, des rassemblements aujourd'hui à Lyon, Angers, Créteil, mais aussi à Notre-Dame de Paris cet après-midi, Léonard Cassette.
C'est sur un petit pont qui donne sur la cathédrale Notre-Dame, ces travaux, qu'une grosse cinquantaine de personnes, des fidèles, mais aussi des déçus de l'Église se sont réunis. Étienne est un paroissien d'Évreux, il est membre du collectif Agir pour notre Église.
Effectivement, il y a des poubelles qui puent dans l'Église, mais nous, ce qu'on veut, c'est justement les sortir pour pouvoir repartir sur des bases saines. C'est un devoir qu'on doit aux victimes. Il y a toute une partie de l'épiscopat qui n'a pas encore compris toutes les leçons de la SIASE. On ne peut pas continuer à laisser le secret se faire. On a des gens qui ont été abusés, qui ont besoin de justice, et on ne leur offre pas cette justice.
Alors, à quelques jours de la conférence des évêques de France, le petit groupe appelle ses membres à faire de nouveaux efforts pour sortir l'Église de sa culture du silence. En brandissant des pancartes, à l'arrière, Béatrice attache des nœuds de tissu violet aux rambardes du pont.
Ce sont des rubans qui sont un hommage aux victimes. On est leur porte-parole, en fait. On ne touche pas aux enfants. Un point, c'est tout.
Vous estimez que l'Église a compris ?
Non, pas encore.
Selon elle, il faudrait remettre les religions au centre du débat public pour éviter les dérives en privé.
Reportage devant Notre-Dame, signé Léonard Cassette. Allez, avant une petite pause, on retourne au Parc des Princes, Paris Saint-Germain 3. Les Parisiens sont menés désormais, Nicolas Georgerot.
Oui, la sensation avec un doublé pour Mama Baldé qui est venu tromper Donnarumma. Elle était seule au milieu de la défense et une défense parisienne très apathique. La 54e, 2 buts à 1 pour 3 face au PSG.
À tout à l'heure, Nicolas. On fera un nouveau point. Il est 18h11. Cette petite pause annoncée dans RTL Soir. À tout de suite.
RTL Soir. RTL Soir avec Vincent Parizeau.
Ça va vite et ça s'enchaîne hein, au Parc des Princes, Nicolas Georgerot.
Avec l'égalisation signée Messi, une frappe à 18 mètres, 2 buts partout après 56 minutes.
Entre le Paris Saint-Germain et Troyes, on fera un nouveau point tout à l'heure.
RTL Soir.
6 jours après les tornades qui ont ravagé plusieurs villages des Hauts-de-France, où en est-on de la remise en état, de l'aide aux victimes, aux sinistrés, de leur relogement? Je vous rappelle que 3 communes ont été touchées très sévèrement dans le Pas-de-Calais dimanche soir au sud d'Arras, notamment le village de Bihucourt, et vous y êtes retourné aujourd'hui, Antoine Decarne.
Dans les rues du village, le bruit des tronçonneuses résonne inlassablement. 6 jours après le drame, les sinistrés s'occupent toujours de leur maison, enlèvent les gravats, refont leurs charpentes, coupent leurs arbres.
Et là, ils sont en train d'abattre tous les arbres. C'est qu'est-ce qu'il nous reste du jardin, quoi.
Et il ne reste pas grand-chose chez Catherine, 22 ans qu'elle habitait à Bihucourt avec son mari.
C'est une tragédie pour tout le monde. Hein. Malheureusement, on a tout perdu. Le toit il s'est emboulé dans la tornade. Hein. Les meubles, les matelas. Il y a 22 ans de vie qui sont partis comme ça. La maison est classée rouge. C'est interdit de rester dedans. Donc mon fils a un de mes garçons qui m'héberge. Donc on dort là-bas. Et la journée, on fait 5h du matin, 23h le soir pour dire de sauver ce qui est sauvable encore.
Et les 105 habitations de ce village de 350 habitants ont été touchées en une semaine. Les voiries ont été nettoyées. Le courant est revenu. Maintenant, une expertise est en cours concernant la présence d'amiante. Le maire de Bihucourt, Benoît Vincent Caille.
On va dire que la pression redescend, mais il y a d'autres soucis qui arrivent derrière. Donc il y a la réparation du réseau, il y a les démarches administratives par rapport à la reconstruction. Donc ça, c'est toute une étape pour reconstruire pour chacun, quoi.
Oui, cette reconstruction, tous les habitants l'attendent. C'est désormais un retour des assurances qui permettra d'enclencher les travaux.
Un reportage signé Antoine Decarne. On ouvre maintenant le dossier de la guerre en Ukraine avec de nouveaux événements aujourd'hui. Tout d'abord, cette attaque de drones ukrainiens dans la baie de Sébastopol contre des installations de la flotte russe de la mer Noire en Crimée, péninsule, je vous rappelle, annoncée par Moscou. La Russie accuse donc l'Ukraine, parle de l'attaque la plus massive de drones dans ce secteur depuis le début du conflit, et en même temps accuse Londres d'avoir aidé à la préparation de cette attaque. Du coup, Moscou, en représailles, décide de suspendre sa participation à l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes, accord vital pour l'approvisionnement des pays pauvres. D'ailleurs, l'ONU appelle à ce que cet accord soit maintenant respecté, ce que réclame Kiev. En tout cas, on l'a compris, Moscou accuse Londres pour cette attaque, mais ce n'est pas tout. La Russie accuse également la Grande-Bretagne d'être impliquée dans les sabotages des les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 en mer Baltique en septembre. Moscou veut d'ailleurs soumettre ce dossier au Conseil de sécurité de l'ONU. Mais dites-nous, Marie Billon, comment réagit-on à Londres ce soir ?
Alors, c'est le ministère de la Défense qui a émis un message sur les réseaux sociaux, un tweet très court pour nier toute implication de l'armée britannique. C'est pour détourner l'attention de sa gestion désastreuse de l'invasion illégale de l'Ukraine, lit-on, que le ministère russe de la Défense a recours à la diffusion de fausses affirmations d'une ampleur épique. Et la défense britannique continue. Cette histoire inventée en dit plus sur les disputes au sein du gouvernement russe que sur l'Occident. Moscou accuse aussi l'armée britannique d'avoir une présence sur le sol ukrainien, estimant que des soldats anglais ont participé à l'attaque de drones à Sébastopol depuis une base située dans le sud du pays. Les militaires britanniques ne participent à aucune opération en Ukraine. En revanche, l'armée britannique forme au combat des citoyens soldats ukrainiens sur des bases militaires anglaises. Plus de 5000 Ukrainiens ont déjà reçu un entraînement de 3 à 5 semaines. Le but est d'entraîner au moins 19 000 recrues venues d'Ukraine.
Marie Billon à Londres pour RTL. Et ce soir, Elisabeth Borne affirme n'accorder aucun crédit à ces accusations russes contre le Royaume-Uni. RTL en Ukraine, justement. On retrouve maintenant les envoyés spéciaux d'RTL, Émilie Bojard et Jonathan Griveaux, qui viennent de passer ces 8 jours dans la région de Kherson, en passant notamment par ces villages libérés par les forces ukrainiennes. Bonsoir Émilie.
Bonsoir.
Merci, vous êtes en direct ce soir sur RTL. Dites-nous, à l'issue de ces 8 jours de reportage, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ?
Eh bien, dans ces villages libérés, ce qui marque, c'est l'ambiance fin du monde qui y règne. Ces villages ont vécu 7 mois sous occupation russe. Certains sont complètement détruits. Il n'y a plus d'eau, plus d'électricité. Et les gens qui sont restés tous ces mois, eh bien, ils vivent dans la plus grande précarité. Ils survivent comme ils peuvent avec le bois de la forêt. Ils récupèrent l'eau de pluie. On a rencontré, par exemple, Ludmila, 72 ans, qui vit toute seule dans un de ces villages libérés. Il fait 12 degrés chez elle et elle fait sécher des croûtes de pain dans son salon. Ils lui serviront pour sa soupe cet hiver. Et puis, il y a tous ces témoignages sur ces 7 mois d'occupation russe. On nous raconte les arrestations arbitraires, les violences. On en a parlé notamment avec Anna, 14 ans, qui a vécu une grande partie des 6 derniers mois dans la cave de sa maison, trop peur de sortir et d'être violée par les soldats russes.
Émilie, vous avez parlé de cette femme, Ludmila, en évoquant les températures. Est-ce que désormais, les Ukrainiens craignent particulièrement l'arrivée de l'hiver ?
Et oui, c'est la grande crainte, et pas seulement autour de Kherson, hein, dans tout le pays. L'eau, l'électricité, tout cela commence à manquer. À Mykolaïv, par exemple, grande ville proche de Kherson, les habitants n'ont plus d'eau potable depuis des mois. Ils survivent grâce à des camions-citernes. Mais si l'électricité s'arrête, eh bien, ils ne savent pas comment ces camions récupéreront l'eau, car il faut des pompes qui marchent avec le courant. Et puis l'hiver est rude. Ici en Ukraine, il va falloir se chauffer, et c'est la grande inconnue des prochaines semaines. L'Ukraine a déjà prévu d'acheter de l'électricité à l'Europe et notamment à la Slovaquie.
Émilie Bojard qui était en direct, Émilie qui était avec Jonathan Griveaux, envoyé spécial d'RTL, désormais sur le départ après 8 jours passés dans la région de Kherson, et vous avez pu vivre évidemment tous ces reportages la semaine dernière. Sachez enfin qu'un hommage national à Pierre Soulages sera rendu mercredi après-midi au Louvre à Paris, et ça une semaine après sa mort. Vous savez qu'il s'est éteint à l'âge de 102 ans. Emmanuel Macron va présider la cérémonie dans la cour carré du Louvre, en présence des membres du gouvernement, de la famille de l'artiste, et on apprend que cette cérémonie sera ouverte au public. Il est 18h20, alors on marque une pause et on ouvre la page des sports juste après ça, à tout de suite.
Vincent Parisot, RTL Soir. RTL Soir avec Vincent Parisot.
Avant le sport, cette information extrêmement étonnante et pour l'instant inexpliquée qui nous parvient à l'instant, ça se passe en Corée du Sud. Des dizaines de personnes prises en charge en arrêt cardiaque à Séoul lors des célébrations de la fête d'Halloween. 140 ambulances ont été déployées immédiatement pour prendre en charge toutes ces victimes. 50 personnes environ en arrêt cardiaque et pour l'instant aucune explication pour cette situation. On vous tiendra évidemment informé lorsque nous aurons plus d'infos sur cette affaire. Le football, donc la 13e journée de Ligue 1, PSG 3, on s'est quitté à 2-2, Nicolas Georgerot. Et maintenant
3-2, et le Paris Saint-Germain pour la première fois dans cette rencontre qui est devant grâce à un but de Neymar, parfaitement lancé par Messi, une jolie frappe du Brésilien, frappe croisée qui va sous la barre transversale alors que Neymar attaque à nouveau et qui est en train de passer pour Mbappé, et l'énorme arrêt de Gauthier Gallon, le portier troyen. Le PSG tout proche du 4-2 après une formidable action de la part de Neymar. Mais aussi un PSG qui montre beaucoup de fragilité défensive par moment. 20 minutes à jouer, un peu plus, et 3-2 pour le PSG face à 3.
Et ce soir, 21h, Strasbourg-Marseille à suivre dans RTL Foot. Sachez enfin que l'inquiétude commence à grandir pour Benzema, puisqu'à 3 semaines de l'ouverture du Mondial, on sait qu'il ne jouera pas demain avec le Real. Le rugby avec un grand classique pour la Coupe du Monde féminine, les Bleus face aux Blacks, France-Nouvelle-Zélande. Ce sera l'affiche de la demi-finale, puisque les Françaises ont dominé les Italiennes ce matin. Alors, battre les Blacks, c'est possible? Écoutez Yann Borswick, journaliste néo-zélandais.
Ah, ça c'est pas encore dit, hein. Mais je trouve que l'équipe de France féminine, il y a vraiment une montée en puissance, la qualité de jeu et la cohésion de l'équipe ensemble. L'une des joueuses l'a dit, c'est de rester humble et d'être affamé. Et ils l'ont montré tout au long de la compétition, mais aussi en même temps de jamais être inquiété ou de jamais être déstabilisé par l'opposition. Et là, elle se trouve maintenant qualifiée pour la demi-finale contre la Nouvelle-Zélande. Il va sans dire que ça va être une des plus grands matchs de rugby féminin depuis de longues années.
Et évidemment, on suivra ça. Yann Borswick avec Vincent Serrano. Pour tous les amateurs de rugby, les amoureux du ballon ovale, le podcast hebdomadaire d'RTL. Franchement, on vous le conseille. Il est signé Jean-Michel Rascol et Cyprien Bétou.
Mon métier, ma passion. Armelle Lévy.
Bonsoir Armelle.
Bonsoir.
On part à la rencontre d'Audrey Yargui. Elle nous accueille dans son cabinet à Suresnes dans les Hauts-de-Seine. Depuis 17 ans, elle exerce la profession de chiropracteur. Elle est spécialisée dans les sports de combat et les sports collectifs.
Installez-vous sur le ventre. Parfait. Inspirez. Le bruit, en fait, ce qu'on appelle le drop, associé au poids de la personne plus la respiration, en fait, la table tombe toute seule. Et là, on entraîne un mouvement sans stresser le patient.
C'est quoi la chiropraxie?
Si on veut faire simple, on va dire cousin germain de l'ostéopathie. Quand vous avez mal au dos, mal à une articulation, vous pouvez venir voir un chiropracteur qui procédera à une analyse et décidera quelle est la meilleure technique pour vous accompagner dans la récupération de votre mouvement.
Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier?
Ce qui me plaît dans mon métier, c'est le travail d'équipe. Parce que je sais sur quel levier actionner, je sais sur quel point appuyer, mais j'ai besoin du retour du patient. Et le patient, c'est mon coéquipier, comme moi je suis le sien, parce qu'il va lui avoir tout le ressenti.
Comment vous faites avec le patient?
Alors au début, il est debout. On regarde un petit peu la posture, de face, de profil, de côté. Ensuite, il passe assis. On va lui faire faire quelques mouvements pour voir les amplitudes de mouvement. Tête, thorax, bas du dos. Il passe sur le ventre. Là, on part des pieds ou de la tête, mais on va mobiliser les articulations, palper les muscles, voir où on a un petit peu les restrictions. Ensuite, on peut ajuster mécaniquement, donc il peut y avoir des petits cracks. Le patient passe ensuite sur le dos, et là, on repart, on recheck, et on va continuer. Est-ce qu'on va aller déverrouiller une lombaire, une thoracique? Généralement, moi, j'aime bien finir par un petit peu de crânien, donc le travail des muscles sous le crâne, parce que ça relâche bien, ça détend bien. C'est sympathique de repartir détendu. Et après, je donne des devoirs. Pour entretenir ce qu'on a fait,
il faut quelle qualité pour être un bon chiropracteur?
Il faut savoir écouter, quelquefois être un peu ferme aussi, puisque bon bah ils tentent, hein, c'est comme les enfants, si on peut éviter de faire un exercice, hein, voilà. On peut pas leur reprocher quand on est en posture de patient, on fait tout ça, mais oui, il faut aimer les gens.
Voilà, et ils sont aujourd'hui 1750 en France à exercer comme Audrey Yargui le métier de chiropracteur. On les salue et les sportifs leur disent merci. Merci à vous Armelle, à la semaine prochaine.